Cap, Jack Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap avec, selon l'état civil, Marcel Jean-Pierre Balthazar Miramont. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors la vallée d'Aspe nous a donné des ours, elle nous a donné un homme politique célèbre et candidat à l'élection présidentielle que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques jours, Jean Lassalle, et puis un grand artiste, un des derniers représentants du musical français, 72 ans de carrière s'il vous plaît. J'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio d'Esprit Occitanie Marcel Amont.
Comment allez-vous? Non, ça commence très bien, j'ai presque envie de m'en tenir là.
Si vous voulez, on peut arrêter, mais bon, il y a quand même, on va trop frustrer nos auditeurs. Alors j'ai noté, Marcel Amont, déjà vous êtes né un 1er avril, c'est pas courant ça d'être un 1er
avril.
Mais
non, qu'est-ce que je peux faire comme commentaire?
Et vous ne pouvez rien maintenant.
Hein. Et je soupçonne mon père et ma mère
de l'avoir fait exprès,
de m'avoir conçu le 14 juillet précédent.
Ils étaient fin tireurs quand même.
Et ça correspond. Comptez sur vos doigts, vous allez voir. Alléluia, 9 mois plus tard.
Je suis sûr qu'il y a. Alors j'ai dit 72 ans de carrière. Est-ce qu'au bout de 72 ans de carrière, et quelle carrière, on va y revenir, est-ce qu'on a toujours le plaisir et le désir d'être sur scène?
Mais oui, c'est-à-dire qu'au début, c'était pas une évidence. Je vais raconter ma vie. Vous m'arrêtez, vous me faites un signe d'intelligence.
Ne vous inquiétez pas, je vais même vous interrompre.
Vous n'avez pas l'air bête, vous allez me faire un signe.
Vous êtes gentil.
Un signe d'intelligence. C'est-à-dire, mon père et ma mère étaient dans des petits paysans pauvres, c'est pas un pléonasme, dans la vallée d'Aspe, dans cet exode rural de l'entre-deux-guerres. Ils sont venus travailler pour gagner leur croûte. Ils sont venus travailler à Bordeaux, où je suis né, et où j'ai passé les 20 premières années de ma vie. Et bon, ils ont eu un seul enfant, ma pomme. Et j'ai eu le privilège immense, merci papa, merci maman, de faire ce qu'on appelait à l'époque mes humanités. C'est-à-dire, je suis arrivé jusqu'au bac, et là, la question s'est posée. Promotion sociale déjà extraordinaire, je vais aller à l'école normale, et je vais être instite. Et non, regardez-moi, qu'est-ce qui lui prend celui-là? Au lieu d'aller à l'école normale et d'enseigner le français, de se joindre à la cohorte bénie des hussards de la République, voilà que j'entre au conservatoire pour jouer les valets de Molière et chanter dans un petit orchestre local. C'est déjà au départ, c'est complètement dingue, complètement.
Et vous étiez quand même posé des questions, parce que vous aviez choix entre l'éducation physique, parce que vous êtes quand même un sportif,
et puis
la partie plus intellectuelle.
Je m'étais dit, tant qu'à enseigner quelque chose, enseignons quelque chose qui remue un peu, et c'est là où j'avais fait l'Institut d'éducation physique. Mais enfin, moi, déjà au départ, je voudrais vous faire mesurer que c'était une rupture total, et avec les espérances de mes parents, et avec ce qui était programmé pour moi.
Comment ils l'ont vécu, vos parents?
Mon père, pas bien. Les femmes sont plus intuitives. Ma mère dit, oh, si c'est sa vocation. Et mon père, avec son bel accent bernais, vocation, vocation. Mais tout le monde chante, c'est pas un métier. Le fils du voisin, il chante aussi. Mais il a une paye à la fin du mois. Tandis que lui, regarde, il croit que de faire cuit sur une branche, on va le payer. Et, mais il s'est tourné vers moi. Mais alors, tu n'auras pas de retraite. Bon, donc ce qui fait qu'une vocation, appelons-le comme ça, selon l'étymologie, une vocation impérative m'a poussé vers cette profession tout à fait incongrue dans mon milieu. Bon.
Et qu'est-ce qui vous a amené?
Et je sais pas.
C'est venu comme ça. Vous l'avez senti?
J'étais, bavard de trop en classe. Bon élève, mais distrait ses camarades. C'est vrai. J'ai toujours eu besoin de me donner un spectacle, d'amuser la galerie, de faire le con, disait mon père. Bon. Et je pense que ça m'a attiré irrésistiblement. Et c'est vrai que j'ai fait fourni de... Parce que je revendique que d'avoir travaillé comme une bête. Vous savez, si vous voulez... Bon, déjà, sortir du panier à crabe, c'est pas si évident que ça. Mais après, pour se maintenir, c'est que j'ai mesuré assez vite que quand on sort du panier à crabe en question, on est un privilégié. On gagne bien sa vie. Et mieux que ça, on a la gloire, guillemets à gloire quand même. On a plein de choses qu'il faut mériter parce que ça pousse derrière. Les autres aussi, ils voudraient bien leur place au soleil. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai réussi à me faire, oui, disons-le, à me faire une personnalité et à me maintenir la tête hors de l'eau quand les vents contraires ont commencé à souffler. Voilà.
Et Marcel, quand vous avez pris la décision d'aller à Paris, quand vous êtes arrivé à Paris, est-ce que vous étiez connu ? Vous saviez où aller ? Vous saviez...
Oui, on savait. J'avais assez vite compris, puisque les jeudis, en général, je jouais la comédie. J'ai joué Mascarille, Des Précieuses, Ridicules. J'ai dû le jouer au bout. Et puis, je chantais dans un petit orchestre, hein, Christian Bob. J'avais compris assez vite qu'à Bordeaux, où il ne se passait pas grand-chose... Sur le plan artistique, j'avais compris qu'il fallait tenter le grand bond, quoi. Déjà, à Toulouse, j'ai été tenté à un moment donné, mais personne ne m'a dit chez qui, à quelle porte frapper. Il y avait le Grenier de Toulouse, oui, qui était très réputé, oui. Et là, si quelqu'un m'avait dit, voilà, tu vas venir jouer la comédie chez nous, à Toulouse, j'aurais dit oui, avec enthousiasme, mais bon, j'ai compris donc assez vite qu'il fallait monter. Nous montions, monter à Paris. Nous autres, les méridionaux, nous montions. Vous savez, peut-être que les ch'tis descendent et que les bretons arrivent en crabe, je ne sais pas.
Je suis monté aussi à Paris, puisqu'il n'y avait rien à faire ici.
J'ai compris qu'il fallait, où personne n'attendait Marcel Miramont à la gare d'Austerlitz. Et là, ça a été dur. J'ai ramé. Et bon, j'ai réussi à m'en sortir. Bon,
alors, vous avez commencé dans les cabarets. Comment ils vous ont accepté dans ces cabarets, les cabarets de l'époque, la Villa d'Est, la Fontaine des Quatre Saisons, etc.
On passait des auditions. On m'a souvent demandé est-ce que c'était plus difficile à l'époque. Non, c'était plus difficile, mais c'était moins dangereux. Les arcanes par lesquelles il fallait passer étaient quand même... C'était établi, il y avait la liste des cabarets, on allait passer des auditions. Mettons tel cabaret le mardi, passer des auditions avec le pianiste maison, qui souvent vous foutait votre tour en l'air, mais ça fait rien, on allait au suivant. Bon. Tandis que maintenant vous passez deux fois à la télévision, vous n'avez pas le temps d'apprendre votre métier, puisque, jeunes gens qui m'écoutaient, c'est un métier, c'est pas une rigolade. Si c'est une rigolade, c'est un plaisir. Mais il faut pas ressembler aux voisins. Voilà. J'imitais beaucoup Yves Montand quand je débutais. Et du jour où j'ai cessé d'imiter Yves Montand, j'ai eu beaucoup moins de succès. Mais je me suis accroché parce que c'est pas en imitant Yves Montand qu'on fait une carrière.
Non, mais voilà. Vous avez trouvé votre voix, votre place.
Oui, en travaillant.
Mais les textes, vous chantiez à l'époque dans ces cabarets.
Oui.
Qu'est-ce que vous faisiez ? Vous faisiez la levée de torchon, comme on disait, c'est ça ?
Ah, mais dans les cabarets. Oui, bien, mesdames, messieurs, votre attention. Voilà un jeune qui débute. Comment il s'appelle ? Voici Marcel Aumont. Hein, c'était comme ça. Et il m'est arrivé dans des endroits où les gens ne m'écoutaient même pas, ils bouffaient. Je me souviens d'un réveillon à la Villa d'Est, pas à la Villa d'Est, à l'Orée du Bois. Personne, ils bouffaient leurs huîtres et ils discutaient, ils s'amusaient à nous rendre des bouteilles de champagne.
Là, il fallait s'accrocher.
Mais oui, mais parce que à Bordeaux, moi, j'avais le gîte et le couvert, même si j'étais pas content de ma décision, mon père et ma mère m'auraient jamais foutu à la porte. J'avais pas fait de choses répréhensibles, même si j'étais pas d'accord, répétais-je. Et j'avais le gîte et le couvert. À Paris, même si elle était modeste, crasseuse des fois, j'avais une chambre d'hôtel à payer, il fallait manger.
Alors ça veut dire que vous faisiez plusieurs cabarets dans la même soirée ?
Ah, un seul n'aurait pas suffi. Un seul m'aurait payé le quart d'un beefsteak. Alors j'en faisais trois, quatre. C'est là où j'ai connu Brassens d'ailleurs, la Villa d'Est. Mais là, ça commençait à aller un peu mieux quand même. Non, c'était très difficile, mais le parcours était jalonné. il y avait les cabarets, il y avait les brasseries. Les brasseries avaient des cahiers des charges. Ils devaient engager un orchestre et prendre des attractions. Et très souvent, la direction j'ai des souvenirs. Vous savez, je suis bavard, vous en êtes déjà rendu compte. Si vous voulez que l'émission dure trois quarts d'heure, ça va. Si vous voulez qu'elle dure trois heures et quart...
Moi, je passerai bien trois heures et quart avec vous à vous écouter. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui raconte une expérience pareille, parce qu'aujourd'hui,
mais
ça n'existe plus.
Mais non,
il n'y
avait pas
plus.
Que moi, Brel, qui contrairement à moi, qui arrivait d'un milieu très modeste, Brel était le fils des cartonneries, mais il s'était un petit peu fâché avec sa famille. Mais il faisait la même. Fernand Reynaud arrivait de Clermont-Ferrand. Tous ces gens-là essayaient de se faire leur place au soleil. Nous étions des provinciaux. Les gens qui habitaient Paris, comme Aznavour, quel grand talent en plus. Mais bon, les gens qui, comme Aznavour ou Philippe Clay, ils étaient des parigots. Eux, ils n'avaient pas déjà l'obligation d'aller bosser obligatoirement. Pour bouffer.
Quel rapport vous aviez entre tous ces grands, ceux qui sont devenus des grands noms aujourd'hui comme vous? Quel rapport vous aviez? Vous étiez en concurrence ou on s'aidait, on se tenait les coudes?
Mais en concurrence de quoi? À l'époque, ça jouait pas encore. Quand on jouait dans ces brasseries et ces cabarets qui parfois étaient pourris, il faut bien le dire. Bon, on se retrouvait dans des petits bistrots. Et non, il y avait une très bonne ambiance. C'est après que la concurrence joue. Si pour partir en tournée pendant 150 jours, si vous êtes en concurrence avec d'autres, là peut-être ça joue. Mais quand vous êtes un besogneux qui cherche à se singulariser et déjà à subsister, c'est complètement. On fait un peu cause commune.
Qu'est-ce que vous espériez à l'époque quand vous débutiez dans ces cabarets? Vous voyez déjà comme en haut de l'affiche, comme le chante un certain?
Oui, mais on se voit tous en haut de l'affiche. Si c'est pour balayer la salle, il n'y a pas beaucoup de clients. Non, c'est-à-dire, déjà à l'époque, c'est vrai, je m'en souviens très bien, puis j'ai retrouvé des lettres que j'ai envoyées à mes parents. Si déjà, je m'étais dit, si déjà j'ai gagné ma vie comme un instit, ça sera déjà pas si mal. Voilà ce que je me disais. Et à faire un métier qui vous plaît. Vous vous rendez compte, je l'ai découvert avant mes 20 ans quand même. Il y a des tas de gens qui ont pour seul horizon, pour seule joie d'aller visser des boulons toute la journée ou d'aller faire des choses ingrates pour subsister, pour survivre. Et moi, si j'arrive déjà à vivre de ce métier que j'ai choisi, ben tout ça sera merveilleux. Oui, et ça a duré ça. Oui, jusqu'à 56, lors de mon passage dans le programme d'Edith Piaf.
Mais, ça, c'était à l'Olympia.
Oui, mais avant, quand j'ai commencé à gagner de quoi me loger et me nourrir, ben, je ne sais pas si j'étais fou de joie, mais j'étais très content, très satisfait.
Alors l'Olympia, comment vous y êtes arrivé? Parce que là, on n'est plus au cabaret, on était passé très nettement à l'échelon supérieur.
Eh bien, toujours pareil, c'est le bouche à oreille qui jouait. Des cabarets, il y en avait partout, des brasseries. Il y a des gens comme Eddy Marouani, qui était mon impresario, qui deviendra l'impresario de Serge Lama plus tard. Serge Lama, d'ailleurs, parenthèse, que j'ai connu quand il avait une dizaine d'années, avec son père, qui était une grande vedette locale à Bordeaux. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais là? Vous voyez, en plus, je me perds en route.
C'est ça les histoires compliquées. On parlait d'Olympia et de Piaf. Comment elle était,
voilà,
Piaf?
Bon.
Comment ça se passait avec Piaf?
Alors, attendez, vous me demandez comment on en arrivait jusqu'à l'Olympia.
Tout à fait.
Eh bien, il y avait des gens qui vous voyaient, qui parlaient. Eddy Marouani, mon impresario, avait dit, tiens, il y a un pic qui marche pas mal. Là, il était venu me dire, si tu veux, je m'occupe un peu de ta carrière. Et il parlait, il répandait la bonne parole dans les bonnes oreilles. Et il avait parlé à Bruno Cocatrice, qui était venu me voir à la taverne de Paris. Il avait dit non, ça ne marchera pas à l'Olympia. Et puis finalement, passons sur un concours de circonstances un peu compliqué. L'année d'après, je crois, quelque chose comme ça, il cherchait quelqu'un pour passer dans une rubrique qu'il avait intitulée très finement « Le supplément au programme ». Et Marouani lui dit « Ben, prenez le petit Hamon ». Ah, vous croyez? Mais oui, vous allez voir, il marche très bien, il fait des progrès à vue d'œil. Il me prend à l'Olympia. Et bon, disons-le le moins immodestement possible, je casse la baraque.
Quel âge vous aviez à l'époque ?
Ben 27 ans.
27 ans sur la scène de l'Olympia, oui. Piaf derrière le rideau, ça devait être impressionnant quand même.
Passé au programme. Mais il y avait des premières prestigieuses à l'époque. Le soir de la première de Piaf, dans le programme où je passais en supplément au programme, Charlie Chaplin dans la salle, Yves Montand, Simone Signoret, Henri Salvador, tout Paris et Marlène Dietrich. Mais c'était faramineux. Et tout d'un coup, d'où il sort ce jeune qui saute par-dessus les chaises là. Et ben, et d'ailleurs, ça avait tellement étonné le monde journalistique que Paul Carrière, le chroniqueur du Figaro, avait intitulé son article, alors que j'étais pratiquement inconnu et que Piaf était au sommet, c'était la Madone des sept douleurs. Il est dans son article de l'Olympia, à l'Olympia, Édith Piaf et Marcel Amont. Elle me faisait la gueule.
Vous l'aviez volé la vedette ?
Mais non, pas la vedette. Moi, je chantais quatre chansons et elle faisait tout un tour de chant. Avec quel talent ! Tous les soirs, j'étais là dans la coulisse. Je la regardais, je prenais une leçon de scène et de musical. C'était faramineux. Oui, donc comment je suis venu à l'Olympia ? Ben comme ça, jour après jour,
pas à pas. Et Marcel Amont, qu'est-ce que vous chantiez à l'époque ? Les textes de qui ? Quelle musique ?
Ben c'est-à-dire, j'écrivais déjà des chansons, mais je n'ai jamais revendiqué l'exclusivité de l'écriture. Il m'est arrivé de donner des idées de chansons, comme avec ce jeune qui apparaîtra dans ma vie quelques années plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, Claude Nougaro. Il y a des chansons signées Claude Nougaro que j'ai co-signées, enfin que je n'ai pas co-signées, mais auxquelles j'ai participé. Il y en avait d'autres que je chantais clé en main. Et quand des années plus tard, Georges Brassens m'a donné le chapeau de Mireille, finalement j'ai pas dit, croyez-moi, j'ai pas dit, non, moi je veux être un auteur, un compositeur à part entière, ta chanson j'en veux pas. J'ai toujours cherché à habiller sur mesure l'interprète que je suis. Voilà.
J'ai un message d'ailleurs à vous délivrer. Vous avez évoqué Claude Nougaro. J'avais invité ce soir Cécile, sa fille. Oui. Elle était retenue, mais voilà, j'ai la mission de vous saluer pour elle.
Je l'ai connue toute petite aussi. Mais j'en ai connu Sardou aussi, que j'ai connu quand je passais au Libertis. Fernand Sardou venait avec sa femme. Ils s'engueulaient tout le temps. Et ils avaient avec eux leur petit... Leur rejeton qui a fait la carrière que l'on sait.
Après, votre carrière a quand même démarré très très vite. Hein. Vous avez eu le prix Charles Cros, je crois, dans ces eaux-là.
Oui, c'est-à-dire j'ai mis 6 mois pour exploser.
Vous avez pris le TGV, là, quand même.
J'ai pris le TGV, oui, mais après 7 ans d'omnibus.
Oui, mais vous avez été de suite au sommet, puis vous avez eu des textes par les plus grands. Julien Clerc, vous l'avez cité, vous avez cité Brassens, vous avez cité Aznavour.
Oui, mais c'était beaucoup plus tard.
C'était plus
tard.
Parce
que, je vous ai déjà posé la question, vous avez du temps, oui.
Oh, nous en avons autant que vous voulez, Marcel Amont, autant que vous voulez.
Bon, non, c'est-à-dire que... C'est difficile parce que ou bien j'adhère à ce que vous dites et alors on va dire, dis donc, il a une tête, il passe par les portes cochères tellement il a une grosse tête, ou bien alors j'ai l'air de faire un numéro de faux modeste. Mais c'est vrai que j'ai continué à travailler, à cultiver ma singularité, mais ce qui me caractérisait parmi tant d'autres, c'est n'oubliez pas qu'à l'époque il y avait des visuels comme les compagnons de la chanson, les frères Jacques, Georges Hulmer, qui était extraordinaire, Yves Montand, tous ces gens, c'était des scéniques. Et moi, j'ai eu la chance de vouloir alimenter le répertoire d'un scénique, d'un monsieur qui, sur 3 minutes, met des scénettes, porte des scénettes. Voilà, c'était des scénarios, voilà. Mes chansons étaient des scénarios. Et ça m'a permis d'ailleurs de faire une carrière international, sans avoir de gros tubes. Des tubes, mais Joe Dassin en a eu, en 10 ans, il en a eu 20 fois plus que moi, des tubes. Moi, j'ai Bleu, Blanc, Blond, Le Mexicain, Le Chapeau de Mireille, l'amour, ça fait passer le temps, et tout le reste, c'est
oui,
du visuel.
Oui, mais ils sont encore quand même dans toutes les têtes. Et moi,
oui,
j'ai,
mais enfin,
pendant le confinement, j'ai entendu des enfants, parce qu'ils étaient chez eux, donc les parents, vous avez des enfants qui ne vous connaissent certainement pas,
oui,
mais qui chantent encore vos chansons, qui ont 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans.
Oui, mais les gens retiennent ce qu'ils entendent dans la radio, ou peut-être ce qu'ils voient passagèrement à la télévision. Et des tubes, j'en ai pas des masses, j'en ai quelques-uns, heureusement. Mais j'ai surtout fait une carrière, je crois, la carrière que l'on sait, parce que j'étais un visuel. Par exemple, voilà, L'amour en mer. J'avais vu des clowns faire un numéro avec des chaussures spéciales où ils se dandinaient jusqu'à toucher le plancher avec leur nez. Bon, ça m'avait donné l'idée de faire L'amour en mer.
C'est pas évident quand même de passer des clowns
oui,
à L'amour en mer.
Mais oui, mais ça c'est un numéro qui a marqué. Quand j'étais à Moscou, les gens se sont levés en t'applaudissant. Bon, mais ce sont pas des choses que les gens ont retenues. Si je vous demande de me chanter L'amour en mer, vous allez pas le chanter.
Il vaut mieux pas.
Tandis que si je vous demande de chanter Le Mexicain, oui, vous allez le fredonner. J'ai fait une... Bon, j'ai représenté la France à la Semaine française de Tokyo, ou bien j'ai eu le Grand Prix.
Ah, vous avez même failli faire l'Eurovision, d'ailleurs.
Mais j'ai surtout représenté la France au Festival de Montreux par mon côté visuel. Ça m'a ouvert les portes, parce que les gens qui ne comprennent pas ce que vous dites, si vous voient en train de faire l'andouille du gars qui a le mal de mer... ils n'ont pas besoin qu'on leur donne une traduction. Voilà.
Alors, on va vous écouter, mais pas tout seul. On va vous écouter avec Romélie, qui est votre fille.
Mon minoucette.
Voilà, toi et moi, duo de Marcel Amont et de sa fille Romélie.
Chaque fois que je regarde ton visage, c'est un merveilleux paysage. Chaque fois
que j'entends le son de ta voix, je viens me blottir contre toi et mon cœur bat.
Tu ris aux éclats sans rime ni raison, comme des grands coups de soleil dans la maison. Avec toi, chaque année se compte en printemps. C'est pour ça que j'ai toujours 20 ans, grâce à toi.
Avec toi, du moment que tu tiens ma main,
ensemble on n'est jamais, jamais déçu. Ensemble on est au 36e dessus.
Chaque fois, quand je sens que j'ai le cœur gros, je t'appelle au secours aussitôt. Et te voilà.
Chaque fois que j'imagine la vie sans toi, je revois tous les jours sans joie d'autrefois.
Tous les deux on fait la paix.
On est les rois. sais bien qu'on s'aime pour la vie, même quand tu t'envoleras du nid, je serai là.
Voilà, nous retrouvons Marcel Amont. Et oui, on vous a entendu chanter, mais pas tout seul, avec votre fille Romélie. Vous me disiez hors métier que elle n'a pas fait du tout ce métier, ce qui est peut-être dommage.
Des auteurs amis étaient prêts à lui écrire des chansons. Non, elle a été contente de se livrer à cette expérience. Et puis bon, ils font ce qu'ils veulent.
Alors, vous avez fait également beaucoup, beaucoup de télévision. Vous avez été présent dans beaucoup d'émissions. 36 Chandelles, Maritier, Gilbert Carpentier, qui ont tenu l'antenne pendant, je ne sais plus combien, mais très, très, très longtemps.
C'est vrai.
Comment ça se passait, la télévision?
C'était... J'anticipe légèrement sur l'écriture et sur le roman dont on va parler après. On écrivait beaucoup à l'époque. Par exemple, quand je faisais des émissions avec Pierre Tchernia et Marcel Blouval, ou alors plus tard, quand j'ai animé l'émission Tout en Camon, c'était pas à la virgule près, il y avait une large part d'improvisation, mais on écrivait beaucoup. C'est-à-dire, entre les chansons, les revues, les projets d'opérette, les émissions de télévision, il y avait une large part de gamberge, quoi. Par exemple, chez les Carpentiers, on se réunissait Réguine-Mère chez les Carpentiers, chacun envoyait son idée et il y avait des gens qui notaient. Alors là, tu sais, on devrait faire ce que tu as dit tout à l'heure. Ah oui, ça c'est bien. Et là, on le duo. Tiens, et si on faisait venir Marie Laforêt qui... Voilà. On préparait vraiment beaucoup, beaucoup à l'époque.
On faisait comment dire, Bernet, faisait du brainstorming, c'est
voilà,
ça?
Voilà, brainstorming, là, les anglo-saxons, ils ont trouvé un terme qu'on n'a pas dans notre langue, mais qui dit bien ce qu'il veut dire.
Ça vous plaisait, la télévision? Qu'est-ce que vous préfériez, la télévision ou la scène?
Oh, la scène. La scène, d'abord, il y a un recours. La télévision, ça y est, c'est parti. Si t'as dit une connerie, c'est tant pis pour toi.
Oui.
Et il y a des gens qui ont eu des grosses difficultés. Regardez le monde politique. Des fois, il y a une caméra qui est là, pas comme par hasard. Ça y est, c'est envoyé sur les ondes et c'est pas toujours rattrapable. Non, sur scène, il y a toujours un recours, disais-je. Et en plus, ce contact avec le public, et il y a une larme avec un canevas quand même assez rigoureux, assez serré, je viens de le dire. Il y a quand même... on peut toujours improviser. Si y a une dame au premier rang qui rit bruyamment, vous pouvez toujours dire des petites choses sympathiques qui rajoutent de l'intérêt à l'ambiance, voilà, etc.
Vous avez été un précurseur sur scène, parce que vous avez été un des premiers à chanter avec des choristes. Je ne me trompe pas en disant ça.
Mais toujours pareil, j'essayais de trouver des idées, je parlais de l'amour en merde.
Il y a eu des cascadeurs, il y a eu les grands écrans que vous mettiez.
Oui, parce que si tu fais toujours ce que tu as fait pendant toutes les décennies précédentes, et si tu fais ce que fait ton voisin de palier, professionnellement, 100 ans, tu vas être remplacé par un autre. Il faut pas être interchangeable. Voilà, il faut que ce soit vous... Quel que soit le degré de votre talent. Moi, par exemple, j'ai été époustouflé par les tenues scéniques, je parle professionnellement, de Brel. Brel, c'était quelqu'un qui était habité, qui avait 500 000 bougies qu'il éclairait. C'était dingue. Mais c'est tout d'un coup, quand on passait ensemble chez Patachou, là-haut, sur la butte, il n'était pas encore comme ça. C'était bien, hein, chanter le diable, ça va, tout ça. Il peut pleuvoir sur les trottoirs des grands boulevards. Moi, j'ai mamie. Il chantait tout ça. C'était bien. D'ailleurs, Brassens, avec amitié, il l'appelait l'abbé Brel. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacques? Moi, je le sais, mais je ne suis pas là pour cafeter. Tout d'un coup, il s'est trouvé transcendé. Et il a passé la surmultipliée Et c'est devenu... On n'a jamais vu ça depuis, ni avant, on ne l'avait pas vu. La salle debout à la deuxième chanson avec Amsterdam. Voilà. Bon, bref, qu'est-ce que je disais ?
On parlait de la télévision, mais moi j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de l'international, parce que vous avez chanté, je crois, en 7 langues, si j'ai bien lu ce que vous m'avez envoyé. Vous avez fait des tournées en Allemagne, en Espagne, en Hollande, au Japon, en URSS, vous en parliez tout à l'heure, puis beaucoup en Italie, puisque vous y avez vécu un an en Italie.
Il y avait Studio Uno, qui était la grande émission de variété hebdomadaire. C'était les mêmes artistes qui passaient pendant toute une année et on avait chacun son indicatif. Alors il y avait le grand escalier avec les Bluebells qui chantaient en italien. Tiens, je vais vous chanter mon introduction. Comment on appelle ça ? Mon hymne ? Non, pas mon hymne. Ma signature. Alors les filles étaient sur... Parigi, manda la giuba gallo presso, lo chansonnier di maggior successo. Que je l'aime, que je l'aime, que nous l'aimons, que nous l'aimons. Marcella Mans. Et je descendais. Buonasera. Comment ça? Si, buonasera. Quel souvenir merveilleux. Ah, mi fa piacere di parlare di soggiorno in Italia.
Alors on aurait pu faire l'émission en italien, un pays qui m'est cher.
Mais grâce à l'Occitan.
Et dont je parle la langue aussi.
Mais oui, grâce à l'Occitan. Parce que finalement, toutes ces langues se ressemblent. Il paraît, je ne parle pas espagnol, mais je chante en espagnol, il paraît que je n'ai aucun accent. J'en sais rien, moi. Mais c'est des Espagnols qui me l'ont dit. Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores. Y en tus ojos, en vez de miradas, hay rayos de sol. Déjame que te cante, morena, de mis amores. Ils m'ont dit, vous n'avez aucun accent. Ah bon, merci.
C'est fabuleux. Comment on arrive à chanter alors qu'on ne parle pas la langue? On apprend,
mais
on répète.
Je ne parle pas japonais.
Oui. Et alors, allez, faites-moi un peu de japonais, tiens.
Ue omuite aruko namidanga kobore nai yoru omuidasu. Ah, ça vous fait une belle jambe.
Non, mais c'est la première fois qu'on entend du japonais sur l'antenne d'Esprit Occitanie. En plus, par Marcel Amont, c'est quand même pas rien.
Hein. Ah, dis donc. Il se paie matin. Vous qui le connaissez, là, il se paie matin.
Je ne me permettrai pas. Alors, vous avez... je crois qu'il aurait mieux valu faire une émission sur ce que vous n'avez pas fait. Ça aurait été peut-être plus rapide. Mais on va quand même rester dans ce que vous avez fait. Vous avez aussi fait du cinéma, notamment. Vous avez démarré
oui,
avec Brigitte Bardot, je crois.
Mais c'est mon chagrin. J'ai tourné ce film avec Brigitte Bardot, mais le cinéma ne m'a pas souri. Non, je ne peux pas dire.
Et c'est mon grand... Vous avez fait quand même un certain nombre de
films.
Hein.
Oui, mais c'est mon grand regret. Mais bon, on ne peut pas
dire... Vous auriez préféré que ça fonctionne ?
Ah oui, moi si on m'avait proposé un rôle intéressant, regardez des gens, je ne parle pas de Depardieu et des Cadors, mais regardez un type comme Eddie Mitchell, il a fait une carrière très intéressante au cinéma, ça m'aurait botté, oui, mais bon, je ne vais pas pleurnicher sur ce que je n'ai pas fait.
Vous avez tourné quand même, je ne sais pas, je l'ai sous les yeux, mais il y a au moins 7, 8, 9 films peut-être.
Oui, mais des petits rôles épisodiques, bon, je... C'est pas le mur des lamentations ici.
Non, pas vraiment. Non,
bon, alors je vais pas pleurer.
On est optimiste. Donc le cinéma ne vous a pas souri, mais enfin, quand même, il vous a rappelé assez souvent. Et puis
vous avez
tourné des choses. Tiens, le montreur d'ours, qu'est-ce que c'était ?
Le
montreur d'ours.
Ah, mais ça, c'était en Occitan.
Oui, justement, parce qu'on parlait de la vallée d'Aspe et des ours.
Oui, mais enfin, ça a eu des retentissements. Je ne crache pas dans ma soupe, hein, je suis très heureux de l'avoir fait. Mais enfin... Ce n'est pas ça qui a bouleversé le monde du cinématographe, quand même.
Non, on n'en est pas là, mais déjà, vous avez bouleversé celui de la chanson, c'est déjà pas mal.
Voilà,
tout le monde
ne
peut pas en dire autant. Et alors, vous parlez gascon, vous parlez béarnais, vous parlez occitan.
C'est-à-dire, mon père et ma mère ne parlaient que béarnais entre eux, mais ils s'adressaient à moi en français. L'instituteur a dit qu'il fallait envoyer ce petit au lycée, on ne va quand même pas lui parler la langue des pezzouilles. Alors, à moi, ils me parlaient en français. Mais à force de les entendre parler, et puis quand ils ont été à la retraite, ils sont venus me rejoindre à Paris, rebelote que j'entends du béarnais, je le comprends parfaitement. Je l'écris en prenant mon temps, en cherchant mes mots, je le chante. J'ai découvert les poètes quand j'avais 40 ans. Je me suis aperçu, c'est pas ici que je vais vous dire le contraire. Au contraire, c'est comme ça que j'ai connu Lafont et tous les occitanistes qui...
Alors vous parlez de Jean-François Lafont, le président de l'Hostal d'Occitanie
mais
de
oui,
Commergent,
qui
est avec nous ce soir.
Qui font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir vivace.
Ah ça, je peux vous dire qu'ils se donnent du mal, oui.
Vivante la langue. Bon, j'ai découvert à 40 ans, alors que je croyais que j'étais une langue rurale, pour montagnarde, campagnarde, et c'est indispensable. Si on arrive à s'exprimer dans une langue minoritaire pour dire les choses de tous les jours, pour parler de moissons, de vaches, d'élevage, de réparer le toit de la grange, c'est-à-dire... Mais je me suis aperçu, chose que j'ignorais, je l'avoue, qu'il y avait des poètes et des poètes qui disent des choses. Moi, j'en connais un, Bégari, qui s'est fait tuer le pauvre à la guerre de 14. Mais c'est Rimbaud. Mais c'est Rimbaud. Et mon père et ma mère, qui ne parlaient que ça entre eux, ils sont morts sans savoir qu'il existait dans leur langue de tous les jours, qu'il existait des pointures pareilles. Ils ne l'ont jamais su. Moi, je les ai mis en poète, en poète. Je les ai mis en musique, les poètes. C'est un régal, c'est une merveille. Pas tout, mais il y a des gens très humbles qui ont écrit des petites merveilles.
Jean-François Lafont, donc, on vient d'évoquer, me glissait tout à l'heure que vous pouviez nous réciter peut-être un peu de poème, un poète gascon du 17e.
Chiche.
Allez, on y va.
Alors c'est un sonnet, il faut le dire pour les gens qui ne comprennent pas. Voilà, quand le printemps en robe bariolée réveille... La cuisson de la morsure de l'été, le chevreuil fait des bonds et des gambades, il se tient à l'abri des glapissements des chiens, mais pendant qu'il folâtre, l'arquebusier lui envoie le coup mortel. Eh bien, madame, c'est pareil pour moi. Avant de vous connaître, je folâtrais, je m'amusais, etc. Et là, d'une œillade assassine, vous m'avez frappé en plein cœur. Intraduisible. Io plago leiao, une plaie loyale, c'est-à-dire de celle que l'on se fait quand on se bat en duel. Sonnet, ce qui veut dire sonner, vous l'aviez deviné. Oh là là, il est perspicace, ce petit.
Il comprend surtout.
Quand lo printensen raubo pingurlado, aet passale scusu deus randrez, lu cabirou per buns e garrimbez, sauteriquei au mietan de la prada. Au beces guide de l'au en safranado, miralias badehens laigu orientado, pusciu tucu es entarriguetz. Descans currents, crain cicla clapiteio, es setienzau, mes entanque huleio, l'archébusé, l'udalu cop mortao. Atao bibisce in triste soni mieio, quan ubecuel manaha per embeio, au miei deuco, bello plago leiao. Et c'est pas de la tarte, ça, mon cher ami.
Non, ça n'attendez pas, je vois que vous avez toujours une mémoire fabuleuse et que je n'ai certainement pas personnellement. Le théâtre, ça vous a jamais...
Ah si, ben, j'ai débuté par le théâtre.
Ah.
Mes premières fiches de paye, si je veux être... terre à terre, mes premières fiches de paye, Marcel Miramont, ben, c'était en jouant. J'ai surtout joué Les Précieuses Ridicules. Théodore de Banville aussi, Gringoire, mais enfin surtout Mascarille.
Alors à côté du théâtre, de la chanson, on a dit il y a les livres aussi, vous avez beaucoup écrit. Alors on a deux points communs tous les deux. Vous êtes né à Bordeaux, moi à Pessac, c'est pas très très mais, loin hein, finalement.
Oui, vous êtes en périphérie.
Et voilà, moi j'étais en périphérie effectivement. Et puis nous écrivons tous les deux des livres et un peu pour le même éditeur qui est Kern, un très oui. bel éditeur qui est situé à Bordeaux. Et donc vous avez écrit, avant de parler du dernier, il faudrait peut-être parler de ceux qu'il y a eu un peu avant. Vous en avez écrit combien? 7, 8?
Oui, bah, mais c'était un peu mon violon dingue, l'écriture. Je l'ai dit tout à l'heure, on écrit beaucoup, on écrit. J'écrivais beaucoup. Je ne faisais pas une priorité d'être l'auteur. Il y a des chansons qui m'ont été portées clé en main, comme L'amour, ça fait passer le temps, ou Le chapeau de Mireille.
Vous avez quand même de beaux auteurs qui vous ont
mais
confié
enfin,
des,
oui,
des textes magnifiques.
Mais enfin, l'écriture sans musique, sur le métier, j'ai même écrit un livre qui s'appelle « Comment peut-on être gascon ?» Bon, j'adore fouiner. Vous savez le métier que j'aurais aimé faire si j'avais pas réussi dans les métiers de spectacle? J'aurais aimé être journaliste. Parce que quand j'ai écrit mon premier livre, Ça se dit, ça, qui m'avait valu les horreurs. T'as vu le lapsus, les honneurs de pivot. J'avais écrit Ça se dit, ça s'écrit, ça se chante. Mais je suis allé tirer les vers du nez de tous les gens, tous ceux qui ont bien voulu, de la profession. Je les ai interviewés. Je me suis régalé. C'est mon bouquin préféré avant celui dont vous venez de parler, le tout dernier.
Bon. On va venir autre dire. Vous avez écrit un livre de lettres, finalement, que vous envoyez à des amis.
Oui, avec mon fils. Celui-là.
Avec Mathias.
Ah, ça a été une joie de travailler avec mon fils. Parce qu'il me donnait, il me disait, non, ça, papa, c'est pas intéressant. Ah bon? Ou alors, ça, tu devrais développer. Il a fait des études, il a eu cette chance. Il est musicien, il est tout ça. Je me suis bien, bien régalé d'écrire ce bouquin avec Mathias.
Alors, avant de passer au livre d'aujourd'hui qui vous amène à Toulouse et que vous allez aller signer tout à l'heure à l'Hostal d'Occitanie, vous avez parlé de Mathias. Samba d'été, un duo avec Mathias. On vous écoute?
Eh bien, écoutez-moi, religieusement.
Allez, absolument.
Pieusement.
Le soleil et la mer, le soleil et l'amour, dans tes yeux entrouverts, des ombres à contre-jour, des paillettes au soleil, dans tes yeux dans la mer, tes grands yeux en sommeil, et les pins à l'envers, là-haut, un nuage blanc, poussé par le vent. Dessine au ciel bleu ton front, ton nez, tes yeux, tes cheveux. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão. Soleil jaune et vermeil, comme un gros abricot, dans un simple appareil, cuivré or sur ta peau. Plage au doux, sable d'or, soleil d'or par-dessus, soleil d'or, je m'endors, nos deux corps étendus. Olia, e como verão, quente coração. Salto de repente para ver a menina que vem. Là-haut, un nuage blanc. Então falo, sou, digo a seu, mas você vem.
C'était en brésilien à l'origine.
Oui, hein, tout à fait.
Vous Samba d'été.
Voilà, on retrouve Marcel Amont que vous avez entendu chanter Samba d'été avec Mathias, son fils. On a entendu tout à l'heure Romélie, Mathias. Et puis maintenant, on en vient à ce dernier livre. Enfin, ce dernier aujourd'hui, enfin. Parce qu'on espère qu'il y en aura d'autres. Alors, Adieu la belle Marguerite, Marcel Amont aux éditions Kern. Alors ça, c'est un roman parce que c'est le premier que vous avez écrit. Le reste, ce n'était pas des romans.
Mais non, ce n'était pas des romans, je parlais de métier, je parlais aussi de, je l'ai dit tout à l'heure, de gascon, comment peut-on être gascon. Bon, j'écrivais comme qui se livre à un violon, oui, comme qui occupe ses moments de loisir à un violon dingue. L'écriture m'a toujours séduit, mais là j'ai été contraint à l'inaction alors que je suis toujours en train de parler de m'agiter, d'enquiquiner tout le monde à bouger. Et là, j'ai été condamné avec le confinement. les galas annulés comme, comme tout le monde. Et ma femme est là pour vous le confirmer. Je tournais en long et en large, ou en rond, comme vous voudrez, en changeant la direction du rond. Hein. Et je me suis dit, tiens, je vais aller regarder dans mes projets que j'avais commencé et auxquels je n'ai pas donné suite. Je vais aller jeter un œil, voir s'il y aurait quelque chose à dire. Et j'ai trouvé là des départs de comédie musicale, de revues.
Oui, parce que vous aviez écrit une comédie musicale.
Oui, mais qui n'a pas très bien marché. Bon, mais avant, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis là toujours la plume à la main pour le meilleur et pour le pire. Et j'avais trouvé ce départ qui m'avait été inspiré par un fait divers dont on avait été tous les témoins là-bas à Bordeaux. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de développer ça. Voyons, puisque je risque rien et que je suis confiné comme tous les autres, je vais essayer de développer un peu ça et de voir si j'ai le souffle de tenir en haleine un public lecteur pendant 200 pages. Et je dois dire que je me suis piqué au jeu, j'ai développé l'histoire, après j'ai écrit avec un stylo et des ciseaux surtout, parce qu'il y avait, trop de choses inutiles. Ensuite, j'ai renforcé certains, par exemple l'aviation, puisque j'ai fait de l'aviation pendant 20 ans, j'ai piloté des petits avions. Je me suis intéressé au début de l'aviation dans le sud-ouest. Après, j'ai regardé la chronique quotidienne des années de guerre. Bon, pour être pris un peu au sérieux, pour pas en dire, oui, il a traité ça comme une chansonnette par-dessus la jambe. Et donc, je me suis adressé, peu importe le cheminement, je me suis adressé aux éditions Caillan qui ont dit, nous, ça nous intéresse. Divine surprise, parce que c'était pas évident quand même qu'un éditeur se mette à imprimer noir sur blanc les délires d'un chanteur de variété. Et voilà. Et je suis...
Bon, ils ont imprimé les délires de l'avocat que j'ai été, donc vous savez.
Je suis très heureux parce que c'est... Bon, alors disons les choses comme elles sont. Ça m'étonnerait que ça devienne un best-seller mondial, mais enfin, pléonasme. Mais enfin, j'ai des réactions de gens qui ne sont pas dictées seulement par la politesse et la bienséance. Des gens que j'aime beaucoup. Tiens, encore Maxime Le Forestier m'a téléphoné hier, puisque ce petit copain que j'ai vu arriver dans le métier, je l'aime beaucoup. Je lui ai envoyé le livre, il m'a dit « je l'ai dévoré d'une traite » et il m'a couvert de compliments. Ça me touche, je suis très content.
On donne une idée de ce que... Je lis les premières lignes. Hein, donc ça s'appelle « Adieu, la belle Marguerite ».
C'est inspiré par une chanson du folklore, appelons-le comme ça, Béarnais. « Adieu, la belle Marguerite ».
Pardon. « Bastard, bastard, dans la cour de la petite école du village, ce mot craché à la figure du petit garçon pendant la récré mettait un terme à bientôt 7 années de bonheur sans nuages passées au hameau, tout là-haut, à la limite de la forêt. Bastard. Une insulte à tous les coups, mais dont il n'évaluait pas la portée. Voleur, menteur, tricheur, imbécile, dégoûtant, méchant. Alors, Pégase, Astio, Caborut, Trachamante, Trabatène, Mokiros, excusez-moi pour l'accent, je pense qu'il n'est pas très bon. Tout cela, il connaissait par oui dire, mais pas ce mot étrange. Pépé, dis-moi ce que ça veut dire, bastard. Calixte, dont le grand-père n'a pas l'habitude de se dérober, mais à l'air farouche et douloureux de l'enfant, il se rend compte des bouleversements qu'il va éveiller. Il réfléchit, bah, ce sont des imbéciles. Et je vous invite à lire la suite, parce qu'on est déjà en situation, on a envie de savoir ce qui va se passer. Alors, on ne va pas vous demander quelle est l'histoire, parce qu'on ne raconte jamais un livre, mais il y a beaucoup de vous-même. On parle de la vallée d'Aspe, on parle d'une maman mère célibataire qui s'appelle Romélie. On a cité tout à l'heure une Romélie qui n'est autre que votre fille. Il y a le vicomte de Montfort de Trassac.
Oui, j'étais inspiré par des faits divers ou pas, par des faits d'actualité de l'époque. Et je m'en suis inspiré, mais j'ai mis tout ça dans le mixeur et ça donne le cocktail dont vous parlez.
Voilà, c'est votre premier roman. On attend les autres, hein, bien sûr. C'est une histoire d'amour sur fond d'aventure, de guerre, tout ça qui se déroule en Béarn, à Bordeaux, puis après on va voyager, on va à Reims, on va en Allemagne, on va en Angleterre, on revient à Bordeaux, à Peyrelevade de Guyenne, le château des Montfort de Trayssac. Donc vous voyez, je vous rappelle le titre, Marcel Amont, Adieu la belle Marguerite chez Kern, donc un premier roman d'un tout jeune auteur hein, qui se lance, mais bon, on va voir la suite, hein, vous nous ferez une saison 2, une saison 3, moi, comme on dit maintenant.
Je serai vous, j'arrêterai là l'émission, parce qu'un jeune auteur qui vient de publier, ça je pense...
Mais c'est fabuleux de publier un premier roman comme ça, on sent qu'il y en aura d'autres.
Oui, ben j'en sais rien, mais ce que j'ai d'autres idées, et j'en ai 2 mètres cubes de
départ. Ça va faire plaisir à Jean-Luc Rebel, qui est le patron et le fondateur des éditions Kern.
J'en ai plein mes tiroirs. Mais enfin, disons que c'est une expérience inattendue d'être, non pas d'avoir écrit, puisque je l'ai dit tout à l'heure, J'ai beaucoup écrit tous azimuts, mais me voir publier dans un roman une fiction totale, ça je dois dire que c'est la divine sur divine. Mais ne mêlons pas Dieu à tout ça, mais enfin divine quand même, la divine surprise. Oui.
Combien de temps vous avez mis pour l'écrire ?
Un an, mais j'ai beaucoup cisaillé et beaucoup rajouté. C'est-à-dire, encore une fois... Je pense que la pire des choses, quand on écrit quoi que ce soit une chanson ou une symphonie ou un roman d'aventure, il ne faut pas casser les pieds et surtout les oreilles à l'auditeur. Là, ce n'est pas l'auditeur, mais je l'ai écrit un petit peu comme si je le chantais.
On va sentir donc l'artiste et le chanteur derrière le texte.
Comme c'est adroitement amené.
On parle un peu d'art, je demande toujours à mes invités, est-ce qu'il y a une œuvre d'art qui vous a marqué particulièrement ? Et vous m'avez répondu Guernica.
Oui.
Pourquoi ?
Ben parce que j'étais tout jeune, j'avais la guerre. Bordeaux, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, Bordeaux était non seulement ville occupée, mais il y avait la base sous-marine. On a reçu des bombes de nos amis, obligatoirement, de nos amis, toute la guerre. Et... à la maison, on ne parlait pas peinture. Mon père et ma mère sont allés à l'école primaire où ils étaient bons élèves, surtout mon père. J'ai des lettres de mon père, il n'y a pas une faute d'orthographe.
Il y a une belle écriture, je suis
sûr. Le français était la langue du dimanche. Bon. Mais on ne leur parlait pas peinture. Si on leur montrait la peinture, c'était l'Angélus de Millet sur le calendrier des postes. C'est tout ce qu'ils connaissaient. Et à l'école, on nous... Et un jour... On m'a montré, dans Guernica, pour les gens qui ne le sauraient pas, qui nous écoutent, c'est ce qui a inspiré Picasso quand les nazis, alliés de Franco, ont bombardé un jour de marché ce petit pays du Pays Basque, Guernica. Comment dit-on ? Guernica ou Guernica ?
Ah, je ne suis pas hispanisant, c'est
vous. Ah, bah écoutez, tâchez de vous y mettre. Hein. Bon, il serait temps. Bon. Et tous ces. Ce dessin, ces visages tordus, ces chevaux blessés à mort qui hennissent, tout ça, ça m'avait frappé et ça illustre bien toujours maintenant, je pense que ça fixe un moment extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Et vous connaissez le mot, que lors d'une exposition, il y a le Guernica donc, qui est exposé. Et il y a un Allemand qui est séduit, c'était après la guerre évidemment, et qui dit c'est vous qui avez fait ça, dit-il à Picasso. Picasso dit non, c'est vous.
C'est vous, oui, c'est vrai, c'est une anecdote.
Alors moi, je n'ai pas eu la chance de croiser Picasso, mais s'il avait fait que Guernica, ça suffirait.
Vous avez été tenté de peindre?
Non, je dessine et je peins mal, laborieusement. Je suis en train d'écrire à la couverture. Là, c'est pas moi. La couverture, c'est pas moi qui l'ai faite. Là, je suis en train d'écrire un bouquin que j'illustre. Mais enfin, je mets surtout des petites choses en images, en m'inspirant de beaucoup de dessinateurs humoristiques, aussi bien que Michel-Ange que Picasso, mais ce sont des clins d'œil. Mais je ne peux pas dire que je sois ni un bon peintre ni un bon dessinateur. Ce n'est pas ce don-là. Alors que le cinéma, bon. Monsieur.
Est-ce qu'il y a un moment particulier dans votre vie qui est toujours resté dans votre esprit, qui vous a vraiment marqué?
Oui, c'est de l'ordre, c'est de l'ordre intime. Il y a eu des moments faramineux dans ma vie artistique, ne serait-ce que le soir de la première d'Édith Piaf, dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai aussi des souvenirs, par exemple à Moscou, où j'avais chanté au théâtre de l'Estrade. Là aussi, j'ai un souvenir formidable. C'était bien avant la fin du stalinisme. On sentait que ces braves gens avaient envie d'autre chose. Et un jeune chanteur qui fait des galipettes, ils n'avaient pas ça en magasin chez eux. Ils se sont levés. Ce sont des souvenirs. Mais j'ai des souvenirs comme ça. À Tokyo aussi, j'avais ma femme et mes deux jeunes enfants qui étaient avec moi. Et ça a très bien marché. Oui, j'ai des souvenirs exaltants d'accueil sur scène, mais mes chagrins profonds et mes joies immenses, c'est dans le privé. Et ça, je ne vous en dirai pas davantage.
Nous respecterons bien évidemment cette intimité. Il y a un chanteur qu'on appelait Monsieur 100 000 volts, mais ça aurait pu très bien vous aller à vous aussi, ce terme.
Oui, mais enfin, Gilbert... D'abord, était un mélodiste exceptionnel. Peu de compositeurs. Il n'écrivait pas de paroles. Hein. C'était Vidalin, c'était Delanoë et quelques autres qui écrivaient pour lui. Mais d'abord, c'était, je viens de le dire, un compositeur hors pair qui pouvait se vanter d'avoir eu des succès aux États-Unis. Et ça, faut le faire. Et puis sur scène, bon, il était trépidant. Maurice Chevalier, quand il le voyait devant son piano en train de s'agiter, il disait, mais il va bouffer son piano. Oui, mais grand respect hein, pour Gilbert Bécaud, grand respect.
Vous avez, vous, écrit des musiques ou vous avez toujours...
Oui, oui. Notamment, j'ai mis en musique les poètes gascons, béarnais. Mais enfin, non, moi je suis surtout, je répète, c'est pas à moi de me définir, mais je vais le faire quand même. Je suis un homme de scène. J'étais un homme de scène. Je mettais en scène des scénettes qui racontaient une histoire.
Mais jamais de chansons à message, comme on dit maintenant.
C'est ce qu'il y a de plus difficile. Peut-être que par moments, j'ai pu le faire. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Sauf à tomber dans le prêchi-prêcha. C'est très difficile de donner à penser aux gens. C'est déjà pas si mal de leur donner le sourire. Vous savez ce que disait Michel Serrault ? Il disait... Je m'honore d'avoir pris un plaisir immense à être un pitre. Eh bien voilà, moi aussi, je suis très content d'avoir été un amuseur.
Enfin, il y a des pitres de génie, il y a des amuseurs de génie
oui,
aussi, comme
vous.
Oui,
c'est vrai, le génie quand même n'est pas... Non, n'exagérons pas, je n'ai pas de génie. Disons que si, il faut croire que j'ai un certain talent, puisque c'est pendant 70 ans...
Ça ment pas, hein, parce qu'il y a des gens qui passent comme des météores, comme des étoiles filantes, mais
oui,
rester sur le devant de la scène pendant 70, 72 ans, et on ne sait pas encore jusqu'où vous allez aller, ça ne se fait pas par hasard.
Devinez.
Après, je vais observer avec beaucoup d'attention. Il y a des musiciens qui vous ont suivi en permanence, avec qui vous avez joué?
Ah oui, j'ai eu Claude Romain pendant 20 ans. Oui, vous savez, on formait une équipe, il y avait une complicité. Ça joue, ça. On peut faire des plaisanteries en scène. J'ai dit qu'il y avait une large part à l'impro. Oui, oui, oui. Souvent, j'improvisais des choses. J'étais pas figé et fixé comme sous le ciseau d'un sculpteur pour l'éternité. Non, non, non. C'est pas... Les spectacles variaient. Pas du tout au tout, puisque l'essentiel était le même. Mais enfin, des fois, j'improvisais pas du tout. La structure était là. Là, j'ai encore un spectacle qui tourne. L'essentiel est toujours le même. Mais enfin, je me réserve le droit de plaisanter un petit peu avec sur certaines choses, sur l'actualité, par exemple.
Je vous avais posé une question comme à tous mes invités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été particulièrement important dans votre vie? Alors, vous m'avez donné la réponse, mais ne me la donnez pas. Je vous propose de l'écouter.
ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Voilà Georges Brassens, que l'on ne présente plus et qui a eu une place importante dans la vie de mon invité, Marcel Hamon.
Oui, ben, c'est-à-dire on me demandait quels étaient les gens qui m'avaient le plus impressionné. Là, c'est pareil sur le plan personnel. Mes parents, bien entendu, plein de gens que le public ne connaît pas. Mais dans le métier, il a eu une influence, pas du point de vue professionnel, hein. Non, il m'a dit un jour d'ailleurs, tu vaux mieux que ce que tu chantes. Et je lui ai démontré qu'il s'est trompé, qu'on ne faisait pas le même métier. Lui, c'était un poète, c'était quelqu'un qui avait sa place dans la littérature. Pas dans l'écriture de romans. J'avais vu sous les yeux les deux romans qu'il a écrits. C'est pas à la hauteur de ses chansons. Mais ce qu'il a exprimé dans les chansons est extrêmement rare. Dans l'écriture de la langue française. D'ailleurs, j'ai des brouillons de Brassens. C'est incroyable comme c'est travaillé, comme c'est riche. Mais c'est pas ce qui m'impressionnait le plus chez Brassens. C'était le mec, le bonhomme. C'était un être exceptionnel. On se voyait souvent, il venait à la maison, tout ça. C'est difficile à dire comme ça, tout simplement, sans donner dans le dithyrambe. C'était un type dont l'attitude personnelle, dont les propos ne pouvaient que vous interpeller. Voilà. Et assez vite, c'est devenu un ami à la Villa d'Est, justement, où il s'emmerdait.
Le fameux cabaret, oui.
Oh là là, qu'est-ce qu'il était malheureux, là, parce qu'il fallait qu'il sorte de chez Jeanne, puisque Marcel, le mari de Jeanne, ne voulait plus travailler. Et Georges, qui avait fait l'imbécile dans son adolescence, et il n'avait pas de diplôme. C'était la régie Renault. C'était la régie Renault ou les cabarets. Il a choisi les cabarets. Mais c'était pas sa tasse de thé. C'est pas là qu'il s'est... Peu à peu, d'ailleurs, le public l'a apprivoisé. Il s'est mis à aimer les gens. Et ça n'était plus une corvée alimentaire d'aller chanter. Bon. Et donc, cet homme-là, que je conseille... Le poète, tout le monde est à même de l'apprécier. Il n'y a qu'à écouter ses disques et regarder ses textes. C'est pas la peine que je me mêle de faire de l'exégèse littéraire. Mais le mec, le bonhomme, était exceptionnel, je dois dire.
Et puis, il avait quelque chose avec vous, peut-être, c'est qu'il avait conservé un lien étroit avec ses racines, avec Sète.
Oui, il n'était pas le seul. Mais non. C'était quand on parlait, on refaisait le monde. Alors, de temps en temps, il était là avec sa pipe. Et il vous faisait répéter. Ah, tu as dit là que... Tintin. Ah oui, intéressant. Il le disait d'une façon telle qu'on avait compris qu'il fallait réviser.
Comment, dans une vie comme la vôtre, les déplacements, le travail, les spectacles, comment on arrive à concilier ça avec une vie de famille? Vous avez des enfants, une épouse qui est Marlène, là, qui est auprès de nous ce soir. Comment on arrive à jongler avec tout ça?
Mais j'ai eu une jeunesse turbulente. Je suis grand-père par ailleurs, mais j'étais pas quand même un mari convenable, un compagnon fiable. J'étais trop tenté par le démon et j'y ai trop souvent cédé. Non, j'étais pas quelqu'un de bien. Et l'âge venant, je vais pas entrer dans les détails, Marlène est arrivée au bon moment dans ma vie. J'avais déjà 47 ans, dont je savais à quoi m'en tenir sur ma propre personnalité, sur ce que je pouvais espérer de moi-même ou désespérer de moi-même. Elle a su me consoler parce que j'étais dans le chagrin. Elle a su me consoler, elle n'était pas du tout dans le métier. C'est pas quelqu'un qui s'est rapproché de moi pour avoir une place dans mes programmes. Elle était chef de service dans une haute administration et quand je l'ai connue, c'est elle qui avait organisé le congrès, comme lui avait demandé sa direction. Elle n'avait pas besoin de moi pour vivre, et donc c'était totalement désintéressé. Je me suis très vite rendu compte qu'elle était ira. Ma tante Marie, comme ma maman venait de mourir, ma tante Marie me dit toujours pareil, l'accent béarnais. Cette petite, ne fais pas l'imbécile, c'est le bon Dieu qui te l'envoie. Ah. Mais il faut croire, puisque ça a duré plus de 40 ans.
Et ça dure toujours.
Et ça dure toujours.
On ne va pas mettre à l'imparfait. Les enfants, ils venaient vous écouter, ils étaient dans les coulisses.
Oui, mais on ne faisait pas une religion de ce que papa soit chanteur. Non, je les ai amenés partout. J'ai modifié légèrement ma façon de faire le métier, chose que je refusais avant. J'ai accepté de faire des croisières, ils se sont baladés en Méditerranée. Je disais tout à l'heure, je les ai amenés au Japon. On a fait un long périple. On est passé par le Caire, Karachi, Rangoon, Hong Kong, tout ça. Je leur ai donné la priorité sur le métier. Et ils ont vu des choses que j'aurais refusées avant.
Mais ils n'ont pas pour autant pris le virus de la scène.
Et non. Ça m'étonne de la part de Mathias, parce qu'il est doué, il joue de la guitare, il joue du piano. Il chante, vous l'avez entendu tout à l'heure. Romélie, bon, dès le départ, elle a dit que non, que ça ne l'intéressait pas. Bon, pour quelle raison, il faudrait le leur demander. Mais Mathias, bon, bah, Il faut respecter, sauf si vous dites qu'ils veulent être dealers et faire des choses que vous réprouvez, mais sinon, il faut laisser un petit peu les enfants décider de leur propre sort. On peut toujours essayer d'infléchir leur parcours en leur donnant notre opinion. Évidemment, la discussion se livre à table ouverte chez moi, bien entendu. Mais bon, c'est surprenant.
Et les racines béarnaises, Marcel Amont, vous leur avez transmis l'Occitan, la vallée d'Aspe.
Je n'y suis pas né, je n'y ai pas vécu et je n'ai aucune raison d'y vivre. Je suis un petit Bordelais monté à Paris en 1950, mais ils savent pertinemment toute l'importance que ça a pour moi. Ils venaient en vacances quand ils étaient plus petits, ça leur plaisait, mais il ne se passe pas grand-chose pour des jeunes qui ont envie de bouger, il ne se passe pas grand-chose dans la petite maison retapée en haut de la vallée d'Aspe. Bon, mais ils savent l'importance que ça a pour moi. Ah, si on avait vécu dans le sud-ouest, à Toulouse ou à Bordeaux ou à Pau, là, je leur avais posé la question. Là, oui, ils s'y seraient intéressés de plus près. Mais ils savent l'importance que ça a pour papa. Et ça, ça me comble.
On a parlé des livres que vous avez écrits. On n'a pas parlé de ceux que vous lisez ou que vous avez lus. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit La Fontaine, que j'ai lu et que je relis.
Ah, c'est pas mon Dieu, parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais c'est vraiment... m'arrive encore maintenant de m'endormir avec cette lecture que je connais par cœur. Le Fablier de La Fontaine est un de mes livres de chevet. Je sais encore, de temps en temps, je me le récite pour me mettre en voie, les animaux malades de la peste. Un mal, c'est de circonstance d'ailleurs,
oui.
Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'acquérant, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable, etc. » Je vais pas vous le réciter jusqu'au bout, ça dure 3 heures.
Mais on avait beaucoup de plaisir à vous entendre. On pourrait le mettre en musique, ça. Ça vous est venu à l'idée de dire, bah, je vais...
Non, pas La Fontaine, non. C'est sacro-saint, ça. Mais Brassens ne s'est pas privé de mettre Aragon.
Tout à fait.
Et Jean Ferrat non plus. Mais ce n'est pas la même époque, c'est pas... les thèmes ne sont pas les mêmes, ce n'est pas dit... Non, La Fontaine, pas touche, il ne faut pas toucher.
Alors, on ne le touchera pas. On va arriver au terme de cette émission, Marcel Amont. Merci beaucoup. Je ne pourrais exprimer tout le plaisir que j'ai eu à vous avoir en face de moi, échanger avec vous. Je pense que nos auditeurs trouveront aussi, et je l'espère, je le souhaite, beaucoup de plaisir à cette émission.
J'ai un peu bafouillé, hein, quand même.
Nous sommes arrivés aussi, rassurez-vous, il n'y a pas... Ça, c'est normal, c'est la vie. Je rappelle le petit dernier, Marcel Amont, Adieu, la belle Marguerite chez Kern, que vous trouverez à peu près dans toutes les bonnes librairies. Et puis si vous ne le trouvez pas, vous venez à l'Hostal d'Occitanie, vous avez la Tutado qui est la librairie maison, rue Malcousina, et là, vous le trouverez.
Oui, si vous ne le trouvez pas, surtout, je vous en supplie, ne cassez pas la vitrine.
On ne la cassera pas, mais on les commandera. Merci beaucoup, Marcel Amont. Ça a été pour moi un grand plaisir et un honneur. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec à la technique Tiffaine Lemel, que je remercie. Une émission dont vous pourrez bien sûr retrouver le podcast sur le site, avec ceux de toutes les autres émissions. Bonne semaine à toutes et à tous. Et puis Marcel Amont, le prochain passage à Toulouse, parce qu'on n'a pas tout dit, on a encore beaucoup de choses à dire. Alors j'espère que vous viendrez nous revoir sur Esprit Occitanie. Vous êtes ici chez vous.
Adijas, arrevede, era de verorios causus. Avez compris?
Adieu, Marcel Amont.
The sun has left and forgotten me. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drive.